Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
Bonjour à toutes et tous, c'était le mardi 2 octobre dernier. Mehdi Litim, l'un des animateurs du 88.4, était l'invité de la dernière conférence d'Attaque 78. Nous en avions parlé avec Claude Kinzig dans Marmite fait son actu. Le thème de ce rendez-vous était le suivant. Économiste contre économiste, ne vous laissez plus embobiner par les spécialistes de l'économie. Marmite FM vous propose donc un florilège de l'intervention de Mehdi Litim. C'est parti, direction le Scarabée de la Verrière.
Bonsoir à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Mehdi Litim. J'ai étudié l'économie à Sciences Po Paris. Après, j'ai travaillé un peu avec Alternatives économiques. Donc, du coup, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est que on puisse peut-être en discuter. Alors après, je vous garantis pas que j'aurai les réponses à toutes les questions ou que j'ai la science infuse, mais au moins je vous dirai ce que je pense de certains éléments et notamment de certains éléments d'actualité.
Le débat qu'on a eu, il est resté dans un cadre que moi je trouve très très limité, parce qu'il était dans un cadre, quel est le système économique qui permet le mieux la croissance ? Donc en fait, on a une compétition entre deux modèles qui cherchent à aller le plus vite possible dans le mur. Et on fait la compétition entre celui qui se payera le mur écologique, le mur des limites de la planète, le premier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai impensé dans l'économie. On ne trouve quasiment pas d'économistes qui pensent comment on fait une économie sans croissance. Ça fait à peu près, depuis le XVIIIe siècle, qu'on a 1% de croissance par an, à peu près, dans nos sociétés. Mais enfin, on a vécu quelques millénaires avec des croissances quasi nulles. Et si on veut survivre, il faut qu'on y retourne à ça. Et je n'ai pas l'impression que les économistes ils soient capables de sortir de cette compétition entre eux qui fera le plus de croissance.
Alors, deux choses. La première chose, je pense qu'il n'y a pas que les économistes. Tout à l'heure, je suis allé faire des courses à Carrefour, à Bois d'Arcy. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que les économistes qui aiment consommer. Donc, c'est vraiment des phénomènes sociaux qui sont assez massifs. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous dites sur les libéraux, qui ont un modèle qui est inefficace et qui génère pas mal de crises et donc une croissance plus faible en moyenne que les keynésiens. Je pense qu'on peut très bien avoir une croissance plus faible, mais beaucoup plus polluante. La question qui se pose, là moi j'irai dans votre sens, moi j'ai pas votre sensibilité, je dis pas que j'ai raison du tout, hein, mais c'est vraiment une histoire de sensibilité. Je n'ai pas été élevé comme ça et c'est vrai que c'est pas ma sensibilité, mais je serais d'accord pour dire, si on devait faire ça sur un bout de papier au coin d'une table, pour dire notre croissance doit être limitée en fait par notre capacité de polluer ou de ne pas polluer. Mais la question qui se pose, qui doit être débattue à mon avis, c'est de savoir en fait si on pourrait pas avoir une croissance de 2% par an avec des énergies 100% renouvelables, avec des bâtiments autosuffisants, etc. Je pense que la question, elle est là. Parce que la croissance, au final, ça va être c'est un phénomène qui me semble moins naturel. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de crise économique, les gens veulent aller voir leur banquier pour faire des emprunts bancaires, pour pouvoir acheter une maison, pour ceux qui ont plus d'argent, deux maisons, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir acheter plus de vêtements. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois autour de moi. Moi, ce qui me semble être la norme ou le rythme, vous parliez d'1% de croissance depuis le XVIIIe siècle, je crois, en moyenne. Mais je pense que nos sociétés fonctionnent naturellement à la croissance, en fait. Le problème, c'est qu'on a une croissance qui est polluante. Et la croissance, quand vous regardez en fait les évolutions de taux de croissance, la croissance en fait, elle va être cassée en fait par des crises économiques. Et les dernières crises économiques qu'on a eues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une dans les années 90 liée à la construction de l'Europe. Et puis ensuite, vous voyez la crise Internet et la crise des subprimes. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Mais pour conclure, je suis moi tout à fait partisan d'une croissance qui ne pollue pas. Je suis partisan que tout ce qui est bâtiment public, production publique, en fait, soit autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas de pollution. Si, concrètement demain vous voulez changer le modèle économique total, c'est pas jouable. En tout cas, je pense qu'on n'aura pas les moyens. Il va y avoir des tensions sociales qui vont être très très fortes. Mais en ce qui concerne la sphère publique, est quand même gigantesque, puisque la moitié de la dépense totale ou de la création de richesse, en fait, c'est de la dépense qui passe par la sphère publique. On pourrait envisager une sphère publique totalement autosuffisante et en tout cas non polluante.
Je voulais rebondir sur la question qu'Éric a posée tout à l'heure à propos de ce capitalisme-là. Ouais, naïvement, je pensais que, pas le seul d'ailleurs, je pensais que le capitalisme qu'on a connu reposait sur le consumérisme. Apparemment, le capitalisme financier actuel, il n'a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de rémunérer les salariés de telle sorte qu'ils consomment au profit du capitalisme de papa, si j'ose dire. Et dans le prolongement de la question, je me demande s'il ne faudrait pas parler de post-capitalisme, parce que je pense que ça n'a plus grand-chose à voir. Et d'autre part, est-ce qu'on peut espérer que ce capitalisme financier-là aura sa fin inéluctablement ?
Alors espérer, ça j'en sais rien, parce que ça va dépendre des luttes sociales au sein de chacune des sociétés qui développent ce que vous appelez ce post-capitalisme financier. Donc ça, je peux pas savoir. Après, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que c'est pas un mode de production. Mon analyse, c'est que vous avez des personnes qu'on appelle des banquiers, des financiers, qui ont réussi en fait à avoir la main mise en fait sur les banques centrales et la production et la création d'argent dans les banques centrales. Qui un peu comme si elles avaient la main mise en fait sur la production de l'eau. Et en fait, ce que vous avez comme phénomène, alors par exemple sur les marchés boursiers et plus largement les marchés financiers, c'est que vous avez des biens qui valent par exemple 100, qui se mettent à valoir 200 parce que d'un coup il y a eu énormément d'argent déversé sur ces marchés financiers. Si je suis un financier qui connaît bien son métier, eh ben moi j'ai acheté à 100, je revends à 200, voire à 300, voire à 3000. Et vous avez beaucoup de ce qu'on appelle de petits porteurs qui vont acheter à 3000 en fait et qui vont perdre beaucoup d'argent. Et vous avez les marchés financiers qui vont redescendre à 100 ou 150. Tout ça, c'est vrai que alors on va dire, tout n'est pas virtuel, puisqu'évidemment, on a besoin d'avoir des marchés financiers pour financer les acquisitions de voitures, de maisons, pour ceux qui veulent développer l'activité de leur entreprise. Mais bon, moi, je suis d'accord pour dire que on est sur un secteur qui ne crée pas beaucoup de richesses et qui en détruit énormément, et surtout qui détruit les sociétés, parce qu'en fait, quand vous voyez par exemple les conséquences de la crise des subprimes, dans le monde, c'est quelque chose d'affolant, quoi. Vraiment, c'est affolant.
Oui, j'ai un peu de mal à pouvoir intervenir dans le débat, mais enfin, je vais essayer quand même, parce que je ne me situe pas du tout dans les remarques qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, j'en ferai trois. La première, c'est que sur les échanges internationaux, ce qui a été dit, effectivement, depuis très longtemps, les hommes échangent entre eux. Ça, il n'est pas question de revenir là-dessus, ça serait complètement irréaliste. Par contre, on peut effectuer des échanges internationaux qui soient équitables, c'est-à-dire qui soient négociés et non pas le plus fort qui écrase le plus faible, ce qui est le cas actuellement dans tous les cas de figure. Et donc ça, il y a des dispositions, il y a des États dans le monde et ils ont des frontières et on peut peut-être négocier justement des formes de discussion entre États et non pas du libre-échange à tout va avec toutes les conséquences que cela a. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on a parlé du chômage tout à l'heure. Il y a une chose qu'on n'évoque pas, c'est pour diminuer le chômage, d'abord, il joue un rôle extrêmement favorable pour les entreprises, pour le système financier, parce que justement, il pèse sur les salaires, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, c'est la diminution du temps de travail. On peut partager le travail. D'ailleurs, historiquement, je ferai remarquer que le temps de travail a diminué pour les gens. Donc aujourd'hui, la productivité ayant considérablement augmenté, on peut quand même en faire profiter un petit peu les gens alors qu'on ne le fait pas. Ça, on ne l'a pas évoqué, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis enfin, il y a une troisième notion qui est nouvelle dans l'histoire de l'humanité, c'est que quand même, on va chercher du fossile partout pour polluer au maximum. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant pour empêcher le dérèglement climatique de prendre les devants par rapport à l'épuisement de ces ressources, puisque nous n'avons qu'une seule planète. Je ferai remarquer quand même que dans l'histoire de l'humanité, dans les transitions énergétiques, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'à chaque moment des transitions, on a cumulé les énergies nouvelles. Le bois avec le charbon, on a eu le bois et le charbon. Ensuite, on a eu le pétrole, le charbon et le bois, puis le nucléaire, le machin, etc. Non, il faut complètement changer de paradigme. Et mon voisin qui a parlé de décroissance tout à l'heure, ou en tous les cas de non-croissance, il faut le revoir effectivement d'une façon complètement. Sinon, dans quelques décennies, moi je ne serai plus là, mais la présence humaine sur la planète, elle est terminée. C'est mon avis et je le partage. Donc j'aimerais qu'on ait ceci en tête pour avoir quand même prendre des décisions particulièrement grandes. Et en disant cela, ce n'est pas impossible d'avoir des choses extrêmement performantes en revenant à des situations précédentes. Je ferai quand même remarquer plusieurs choses dans l'histoire justement du développement de nos sociétés. Un, l'utilisation des énergies renouvelables était plus importante à la fin du 19e et du 20e siècle en Europe et aux États-Unis. On utilisait beaucoup la force physique. Par exemple, les vélos se sont beaucoup développés à ce moment-là. Les machines à coudre Singer qui ont inondé toute la planète, c'était quand même à pédale. Hein. Et pourtant, c'était de la haute technicité là-dessus. Ce qui a changé, c'est que pour des raisons justement de système économique et de profit, ce qui a changé, c'est que pour gagner de l'argent, il a fallu avoir d'autres modes de développement. Je ne développe pas parce que je ne veux pas prendre la parole à moi tout seul, mais qu'on réfléchisse bien à tout ça, et j'ai mes références pour vous dire que je n'invente pas ça. Les historiens de l'énergie sont capables aussi de nous éclairer sur cette partie-là. Merci.
Je vais reprendre les différents éléments, pas pour dire la vérité, mais pour vous dire uniquement ce que je pense. Bon, je suis d'accord avec vous sur le commerce international. Si l'idée, c'est de taper sur le plus faible, bon, on est tous contre. Notre plus grand partenaire commercial étranger, en fait, c'est l'Allemagne. On commerce énormément, en fait, avec les autres pays européens. Puis, quand c'est pas l'Europe, ça va être de plus en plus l'Asie et un petit peu l'Amérique du Nord. Ceci étant, ça ne signifie pas que la loi du plus fort doivent être appliquées si on commerce avec des pays qui n'ont pas la puissance économique et politique de l'Allemagne ou d'autres pays européens. Je pense, moi, que voilà, il faut qu'on réfléchisse en fait nos relations commerciales en fait avec des pays en fait qui nous ressemblent en fait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que il n'y a pas d'harmonie fiscale et sociale, et ça c'est scandaleux quoi. Et d'ailleurs, je suis très content que l'Angleterre sorte de l'Europe. Parce que j'espère qu'on va pouvoir renégocier les traités dans ce sens-là, parce que l'Angleterre avait tendance à freiner ça. Deuxième élément, oui, la réduction du temps de travail. Alors moi, je suis grave pour la réduction du temps de travail. Simplement, le problème, c'est que... Alors après, il y a toujours des batailles de chiffres, mais pour lutter contre le chômage, ça va pas suffire, parce qu'en fait, on a créé entre 300 000 et 700 000 emplois, en fait... dernièrement grâce à la réduction du temps de travail mis en place sous le gouvernement Jospin avec Aubry, etc. Et puis, il faut saisir que le chômage, en fait, c'est pas une réalité qui est équitablement partagée en fait, au sein de la population. Parmi les cadres, en fait, vous n'avez pas de chômage. En fait, vous avez 4% de chômage chez les cadres et cadres supérieurs. Donc, en fait... même si on réduisait le temps de travail, ce qui se passerait, en fait, et je suis pour, mais ce qui se passerait, c'est que chez les cadres, en fait, il y aurait une forte demande d'emploi de cadres. Et dans les classes populaires, il y a un taux de chômage qui est tellement élevé que même en réduisant le temps de travail, en fait, il n'y aurait pas du boulot pour tout le monde. Il y a un élément dont on ne parle pas suffisamment, je pense, c'est le rôle des banques centrales, et notamment dans la lutte contre le chômage. Il est tout à fait possible, parce que c'est ce qui se fait partout dans le monde, que face au manque d'argent ou face à des dettes importantes, les banques centrales créent l'argent manquant et injectent cet argent dans l'économie. Voire même, c'est ce qui s'est fait un petit peu avec la Grèce trop tardivement, voire annulent un certain nombre de dettes. La dette que connaissent aujourd'hui nos États pourrait être complètement annulée par la création monétaire. Le fonctionnement de ce type de fonctionnement, et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui au sein de la Banque centrale américaine, la Fed, c'est ce qui se passe au Japon depuis longtemps, c'est ce qui se passe en Chine, parce qu'en Chine, ils ne distinguent pas la Banque centrale du ministère des Finances, et c'est ce qui se passe aussi en Angleterre, c'est que quand un État a besoin d'argent, il émet des obligations d'État. Ces obligations d'État, en fait, sont achetées soit directement, soit indirectement par les banques centrales. Donc c'est les banques centrales qui prête de l'argent aux États. La seule limite, éventuellement, ça pourrait être que quand un État il emprunte 10 milliards, il doit rembourser ses 10 milliards, mais il doit aussi rembourser des intérêts. Or, les banques centrales de ces pays reversent les bénéfices qu'elles font au ministère des Finances de ces pays-là. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez des États qui empruntent de l'argent, quoi, de l'argent prêté par les banques centrales, et qui ne payent même pas les taux d'intérêt, puisqu'en fait, ils versent les taux d'intérêt à leur emprunteur, qui est la banque centrale, et cette banque centrale, en fait, reverse ses intérêts sous forme de bénéfices au ministère des Finances de ces pays-là. Il y a beaucoup de pays, en fait, qui s'endettent à taux zéro, en tout cas, au moins une partie de leur dette. C'est les pays dont je vous parlais. Par exemple, aux États-Unis, après la crise des subprimes, il y a eu des déficits budgétaires du fait de relance budgétaire de l'ordre de 10% du PIB. Alors que nous, en Europe, en fait, on est limité à 3. Alors, on a dépassé les 3 parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait vraiment opérer des relances budgétaires massives qui relanceraient l'activité économique si on acceptait que notre Banque Centrale Européenne finance les États. C'est ce qu'elle fait un petit peu quand même. Elle achète en fait au prorata de la puissance de chaque pays une partie de la dette du pays, puisque en fait la Banque Centrale Européenne a acheté de la dette grecque pour que l'État grec fasse pas complètement faillite. Sauf que les Allemands ont dit d'accord, mais si vous achetez un peu de dette grecque, il faudra acheter au prorata un peu de dette française, espagnole, etc. Donc ça, c'est un mécanisme qui existe, mais qu'on n'utilise pas en Europe. Et pour moi, en fait, si on parle de changement de système économique, alors évidemment toujours dans le cadre de pensée keynésien, c'est une des grandes lacunes de notre Europe qui est austéritaire. Alors, j'espère que j'ai été relativement clair sur ce dernier élément, mais en tout cas, moi, il me paraît vraiment fondamental et central.
Voilà, alors pour plus d'informations sur Attaque78, voici son site internet www.up78.org. Et puis si vous voulez retrouver le podcast de l'émission, rendez-vous sur le site internet de la radio marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.